la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Par le bout de la lorgnette. Après l'émission à l'extérieur il y a deux semaines, on revient dans nos studios pour un spécial polar et thriller avec Nico qui est à mes côtés. Salut.
Salut. Ah, je suis bien content de vous retrouver, ça fait un moment. Hein.
Oui, mais tu étais un peu là dans la dernière émission,
ouais,
début d'émission.
Vous m'avez manqué quand même.
Et ouais. Hein, c'est pour ça. Nous aussi, tu nous avais manqué.
C'est gentil.
Salut Héloïse, ça va bien?
Salut tout le monde, ça va?
Alors, Valérie n'est pas là aujourd'hui pour raisons personnelles, donc on la salue bien fort, on l'embrasse.
On lui fait des bisous.
On lui fait des bisous, on la retrouvera dans la prochaine émission. Mais on a une toute nouvelle chroniqueuse aujourd'hui, en la présence d'Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Agnès qui aime les polars, qui aime les thrillers.
Et voilà, qui en plus en a écrit un.
Et qui en plus en a écrit un.
Pas du tout, c'est encore confidentiel.
Il va bientôt sortir. Agnès, merci d'être là et de faire partie de cette belle émission Par le bout de la lorgnette. Et d'ailleurs, on invite tous les amoureux des livres, des lettres à nous rejoindre. Si certaines personnes ont envie de participer à des émissions, mais pas de problème qu'on nous contacte par téléphone ou par mail ou par les réseaux sociaux. Et on vous invitera volontiers. Alors, Par le bout de la lorgnette, polar et thriller, on avait un peu parlé il y a deux semaines de ce genre-là, par rapport à
l'anniversaire de la série noire. Et d'ailleurs, Nico va nous présenter un série noire tout à l'heure.
Ouais, c'est ma série noire.
Et mais pour commencer, je vais vous parler du prix du Quai des Orfèvres de cette année. Il s'appelle Tromper la mort.
Et c'est de
Maryse Rivière.
Tu vois Rivière, Agnès. C'est un pseudo.
Voilà, donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez le prix du Quai des Orfèvres, mais c'est un prix un peu particulier qui est décerné chaque année, mais par un jury un peu spécial, c'est-à-dire il est décerné par des professionnels, non pas du livre, non pas par des éditeurs, mais par des professionnels du milieu que décrivent les polars d'habitude, c'est-à-dire ce sont des policiers, ce sont des magistrats, des journalistes, enfin, c'est vrai. Et le directeur du prix...
C'est Reconcours.
C'est le directeur de la PJ. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Enfin, voilà. Et donc, ils ont un point de vue assez professionnel sur les manuscrits qu'ils reçoivent. Et ils s'attachent surtout au réalisme. Le réalisme est important de l'enquête. Voilà.
Ah, c'est intéressant, ce genre de prix.
Oui, c'est sympa, oui.
D'accord. Mm-hmm. Ça existe sur d'autres styles ou pas du tout? Que des professionnels, je ne sais pas, sur des livres naturalistes, sur des livres...
Tu me poses une colle, je ne sais pas du tout.
D'accord.
Je me renseignerai.
On va se renseigner, ouais.
Voilà, donc ça récompense tous les ans un manuscrit inédit, un polar de langue française. Voilà.
Très bien, alors
donc,
Tromper la mort.
Oui, voilà, cette année, en 2015, c'est le livre Tromper la mort. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire, de ce que ça raconte. Donc en fait, c'est la traque d'un tueur en série entre la France et l'Irlande. Ce tueur en série, c'est un libraire de Montmartre, donc quelqu'un d'assez érudit, qui est passionné par les vieux textes, par les auteurs. Donc c'est vrai que la littérature et les légendes, les manuscrits nous accompagnent vraiment dans le bouquin. Et donc surtout en Irlande, voilà, c'est les légendes celtiques, le manuscrit de Kells, les enluminures, voilà, c'est très présent dans le livre. On sait qui il est depuis le début, on sait que c'est ce tueur en série là, on sait son nom, on sait où il est, on le suit. Et c'est surtout, en fait, c'est pas vraiment une enquête, c'est le récit de cette traque, en fait. Alors, oui, c'est vraiment passionnant, c'est l'occasion, donc, comme je vous disais, de voyager en Irlande. Parce que l'auteur affectionne beaucoup ce pays-là.
Ouais, les paysages se prêtent
au
polar.
Oui, les tourbières, tout ça. Oui, c'est exactement. Il y a aussi pas mal d'humour parce que il y a des policiers français qui sont amenés à aller en Irlande et donc il y a ce rapport entre les différentes polices qui amène un petit côté humoristique. Donc c'est sympa, ça se lit vraiment très vite, c'est facile à lire. Je dirais que c'est quand même très classique. C'est de bonne facture, mais ce sera pas original comme certains ouvrages qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même bien accroché. C'est distrayant.
Tu parles d'une traque. On suit donc les enquêteurs qui poursuivent ce tueur, ou on a également le point de vue du tueur qui essaye de se cacher.
Oui, on a le point de vue du tueur également. On a les deux points de vue effectivement. Ouais.
Et ça parle de l'Irlande.
Oui, beaucoup. Ouais.
Beaucoup. Ça parle description de paysages, tout ça.
Paysages, les légendes, les écrivains irlandais aussi. On en parle beaucoup. Ouais. Et l'histoire irlandaise aussi, parce que il y a toute une partie qui se passe à Dublin, et on parle effectivement de l'IRA, de tout ça. Ouais.
D'accord. Et de la coopération internationale entre les polices.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
Très bien.
Maryse Rivière, c'est une Irlandaise, non?
Alors, elle est française. Hein. Elle est française. Elle a écrit 4 polars pour l'instant.
Ah oui, c'est traduit du français en français par Maryse Rivière. Hein. Tout à fait. C'est...
non, elle est française. Oui, oui. Ouais. Parce que je le disais tout à l'heure, le prix du Quai des Orfèvres récompense uniquement des manuscrits écrits en langue française. Lui.
Ouais. Et alors, ils disent que le prix du Quai des Orfèvres a été décerné sur manuscrit anonyme par un jury présidé par M. Bernard Petit, directeur de la police judiciaire au 36 Quai des Orfèvres. Il est proclamé par M. le préfet de police. Ça a été fait en novembre 2014.
Merci.
Justement, on retrouve des détails dans ce livre, assez précis sur l'enquête, dis que ça doit coller à la réalité.
Effectivement, sur les investigations, comment est-ce qu'on cherche un homme en fait qui est caché dans un pays assez immense, et quels moyens on va utiliser pour ça, qui est-ce qu'on va contacter, et donc c'est vrai que c'est un travail très minutieux qui est décrit. Ouais.
D'accord, et de coopération comme tu l'expliquais. Ouais.
Et de justesse dans le propos et dans l'analyse policière, tout ça, ou c'est assez romancé?
Non, c'est vraiment, je pense que c'est très réaliste. Oui, il n'y a rien de... D'accord. Enfin, il n'y a rien qui m'a semblé sortir du cadre.
C'est chez Fayard.
Oui, c'est Fayard qui édite tous les ans le prix du Quai des Orfèvres. Ouais, c'est chez Fayard.
C'est obligatoirement chez Fayard.
Ouais, et en fait, il a la particularité de sortir en petit format tout de suite. Donc, c'est un livre vraiment pas cher. En fait, il est à 8,90 €. Donc, il ne sort pas en grand format, il sort direct en poche.
Ok, très bien. Bon, vous pouvez retrouver, on le rappelle, hein, comme pour chaque émission, les photographies des couvertures sur notre page Facebook 48FM Mandelozère. Voilà, pour vous donner une idée.
Qui est pilanté en direct par Nico aujourd'hui.
D'ailleurs, voilà. Et qui après écoute pas et qui repose les mêmes questions.
Ben ouais, parce qu'il faut envoyer, voilà. Mettre les photos, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi.
J'ai beau te dire d'attendre la fin d'émission, mais non. Hein,
ben non, parce que non, mais je pense que pour les auditeurs, c'est vachement sympa. Tu es sur ta page Facebook. Tu reçois les notifications avec, tu vois, la page, la photo du bouquin,
ah oui,
l'édition, tout ça. Ça donne envie. En même temps, tu vois l'image et c'est pas mal, tu vois. Non,
c'est du transmédia.
Voilà. Oh, du transmédia. Wow, t'es balèze, toi. Ouais. Voilà. Mais nous, on est fort en transmédia, alors.
Ouais. Il manque que la vidéo. On a essayé une fois, mais ça n'a pas trop marché. YouTube n'a pas voulu de nous.
Ouais.
Mais on va persévérer, Nico.
Tout à fait. On va y arriver.
Allez, second livre, c'est moi qui vais le présenter. On va commencer par Finstero, un polar de Marie de Palais aux éditions de Boré. Merci Héloïse pour ce formidable moment de lecture. Alors bon, je me moque, mais parce que je pense qu'il y a de quoi se moquer. Le titre est bien Finstero, il aurait pu être écrit par Marie de Palais, mais non, il est écrit par André Maria Schenkel, ouais. Aux éditions Actes Noirs chez Actes Sud. Alors c'est un cold case à la bavaroise. Donc déjà là-bas, c'est pas emballant, pas de fête de la bière, pas de Bundesliga. Non, on est dans la campagne allemande d'après-guerre en 47 chez les Santerre. Alors ils sont nommés ainsi en raison de leur extrême pauvreté à Finstero. Une jeune femme, Afra, revient chez ses parents avec son fils de 2 ans, un bâtard comme on les appelait à l'époque, car il est né des amours malheureuses avec un Français 2 ans auparavant, donc en 45. En 47, à Finstero, la jeune Afra et son fils Albert de 2 ans trouvent une mort sanglante dans le salon de la maison de ses parents. Alors justement, ses parents, Johan et Thérèse Zoner, très croyants, étaient devenus la honte du village parce que, bien entendu, à cette époque, donner naissance à un bâtard, c'est mal vu. Son père, alors, il a fait de sa vie, la vie de sa fille, un enfer, des querelles permanentes, des plaintes incessantes à propos du petit Albert. Ces faits qui sont connus de tous et d'autres éléments troublants amènent Joanne à se retrouver accusée des meurtres de sa fille et de son petit-fils. Il est condamné à une peine de 10 ans. Il sera ensuite interné au vu de son état psychologique très perturbé. L'affaire Zoner est close. Da Cold Case. Et ouais, un soir, 18 ans après les faits, un aubergiste se voit confié par un client ivre que le meurtrier court toujours, que ce n'est pas le père. Donc il informe le procureur de l'époque qui rouvre l'enquête. Alors partant de là, le livre est composé de chapitres centrés sur les personnages. Le père, l'officier de l'époque, Afra, de nouveau le père, la mère, de nouveau Afra. Voilà, c'est des courts chapitres de 3-4 pages où on a la vision 18 ans après les faits de l'affaire, où on revient en flashback sur les faits au moment. Alors, très peu de critiques. Je vais souvent voir ce qu'en pensent les autres lecteurs des livres, comme ça reste tout de même subjectif. Je suis allé voir très, très peu de critiques. Une seule, je suis tombé sur une critique du SNES-FSU. Alors, c'est assez drôle, donc le syndicat du second degré des professeurs. Alors, je ne sais pas de quel département. L'auteur de cet article, Nicolas Beignès, et non pas Bedos, dit, je cite, « Sur cette trame, Andrea Maria Schenkel, avec un art subtil et intelligent, nous fait pénétrer dans cette Allemagne profonde, dans cette forêt étrange des émotions et des caractères, dans cette fusion entre les êtres humains et leur environnement. Elle mène l'enquête pour comprendre le sens de cette tuerie, de ce déchaînement de haine. Derrière ce profil, un essai de compréhension de l'adhésion d'une majorité de la population à l'idéologie nazie. En 109 pages, elle nous bouleverse, nous interroge pour nous faire apercevoir les contradictions qui nous agitent. Un livre actuel qui force à regarder les événements dramatiques que nous vivons d'un autre œil, qui ne diminue pas notre angoisse, bien au contraire, un grand livre. » Alors Nico, si tu nous écoutes, je tiens à te dire que je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
Alors... Oui, ça, on commençait un peu à le comprendre, voilà. Que ça t'avait un peu
donc, gavé. Voilà, je ne sais pas en fait s'il y a je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de traduction, parce que j'ai trouvé les dialogues un peu gnangnan, l'histoire fade, l'enquête qui n'en est pas vraiment une, qui est sans grands intérêts. Alors les descriptions inexistantes, on ne parle même pas, des fois, il y a les paysages, les décors qui...
Les paysages allemands.
Voilà, et là, ils sont inexistants. Alors voilà, comme je l'ai dit, comme tout reste objectif, j'ai quand même tenu à vous le présenter. Qui sait, votre grand-mère pourrait adorer. Finstero d'Andrea Maria Schenkel aux éditions Actes Noirs chez Actes Sud. Actes Sud, maison d'édition que j'adore, mais pas sur ce coup-là.
Et oui, là, du coup, ça t'a pas emballé. Mais
donc, il y avait un avantage quand même, les 109 pages, pas plus.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai quand même lu jusqu'au bout. Je me suis dit, bon, ben, on va quand même faire l'effort.
Mais en fait, qu'est-ce qui t'a pas plu ? C'est le style qui t'a pas plu ?
C'est tout.
C'est le ton.
Le ton, déjà, il est pas bon. Les dialogues, c'est là où je dis, je pense qu'il y a un problème de traduction. C'est gnan gnan. C'est du Marie de Palais, quoi. Et qu'elle nous excuse.
Gnan gnan égale Marie de Palais. Merci, Marie de Palais.
Qu'elle nous excuse, parce qu'elle a beaucoup de lecteurs qui aiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc, respect à elle. C'est pas vraiment mon style de lecture. Mais voilà, c'est gnan gnan, c'est fade. L'enquête est pas intéressante.
Non, mais là, je te rassure, on peut dire de tout avec tout le monde. Hein.
Oui, c'est pour ça. Hein, je me permets
liberté d'expression.
De donner mon avis.
Voilà.
Non, c'est un tout. Quoi. Pour moi, c'est pas intéressant. Voilà. Mais ça peut l'être pour certaines personnes, dont le SNES-FSU qui fait une très belle critique à son égard.
C'est eux qui ont fait la traduction.
C'est peut-être eux, ouais. Ils donnent peut-être aux professeurs pour étudier en cours, ce que j'espère pas. Mais bon, voilà, donc ça peut plaire. Il faut peut-être le tenter ou pas.
Merci.
Voilà, vous pourrez retrouver la photographie toujours sur notre page Facebook.
Tout à fait, c'est en ligne.
Voilà. Alors, Agnès, qui est encore plus acerbe que moi dans les critiques, va nous parler d'Olivier Truc avec Le Dernier, La Pont et Le Détroit du Loup. Un très beau titre, pour commencer.
Et en fait, moi, ce sont deux livres que j'ai beaucoup aimés.
Donc, ouais, voilà. C'est bien.
Donc
voilà.
C'est très bien.
Il y a de tout dans cette émission. On est des vrais critiques, Nico.
Donc, Olivier Truc est un auteur montpelliérain qui vit à Stockholm et il exerce la profession de journaliste donc en Suède depuis de nombreuses années. Donc, Le Dernier Lapon, c'est son premier roman qu'il a publié en 2012. On peut souligner aussi qu'il est documentariste et puis ça a un intérêt puisque, en fait, on va plonger en Laponie et ça va nous permettre une réelle découverte de ce pays. Alors, des traditions du peuple sami, du mode de vie des éleveurs de rennes, et aussi de la difficulté à vivre cette culture avec l'évolution du pays. Parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas du tout la Laponie, ni les samis, ni ce qui pouvait... Non, et non.
Des petits lapons, petit patapon, non ?
Ce n'est pas que le pays du Père Noël.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui. Donc, en fait, il y a une évolution du pays, entre autres avec les exploitations des ressources géologiques. donc des confrontations entre les éleveurs de rennes et cette évolution.
Et ça se passe à l'époque actuelle, ça se passe
aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, on a un fond, on a vraiment un polar qui est mené d'ailleurs par deux enquêteurs qui font partie de la police des rennes. Alors déjà, dès le départ, donc, c'est Clémette et Nina. Et la police des rennes existe réellement en Norvège.
Et c'est-à-dire la police des rennes, c'est juste un nom assez poétique qu'ils se sont donné ou il y a vraiment des rennes?
Non, pas du tout. Donc la police des rennes agit sur la, lors de la migration.
R-E-I-N-E-S.
Non, Nicolas, non. Non, non.
Les princes et les princesses, non?
Non, 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 ça c'est dans tes rêves.
Mais oui, le Père Noël, la Laponie, tout ça.
C'est une police en fait, qui est avec des rennes pour chasser entre
les rennes. Eux, ils sont en scooter des neiges, principalement, parce qu'il y a des grandes distances à parcourir. Et donc, ils gèrent la migration des rennes, parce que c'est pas si simple entre les éleveurs. Il y a parfois des vols de rennes, enfin voilà. C'est...
D'accord, ils sont spécialisés.
Ils gèrent les troupeaux, tout à fait. C'est ça, ils gèrent les troupeaux.
Et puis, quand les rennes vont passer près de villages, pour que les rennes ne fassent pas de dégâts, enfin, etc.
Ils passent les rennes au suivant.
Oui. Non, mais non, c'est une source inépuisable.
Ce matin, oui, je suis en forme.
Et donc, en fait, le départ de l'enquête, c'est qu'il y a un vieil éleveur de rennes qui est assassiné et un tambour, Samy, qui est volé. Et donc, l'enquête va conduire, c'est donc les deux policiers de la police des rennes qui vont conduire l'enquête. Et c'est une enquête vraiment très, très intéressante. Et on a toujours ce fond de culture Samy qui est développé, voilà. Mais c'est très bien écrit.
Et on apprend beaucoup de choses sur la culture Samy.
Ouais. Oui, parce que, par exemple, le tambour est volé. Le tambour, c'est un objet important chez eux?
Oui, utilisé par les chamans. Et donc, là, il y a un fond de réalité aussi, parce que les tambours...
Ils fument de la crotte de renne. Et les chamans, et ils voient, si tu veux, avec le bruit du tambour, qui les fait vibrer. Ça leur permet, comme ça, de dénouer des enquêtes de fou, quoi. Il faudrait en apporter à la police locale. C'est ta mission.
Ouais, ils font des pipes avec les cornes des rennes, d'ailleurs, hein, pour fumer les crottes. Ouais, c'est ça. C'est tambour, ouais, tambour, pas tambour de machine à laver, c'est un tambour toum 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 toum.
Oui, voilà, toum 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 toum, avec des inscriptions dessus, à décrypter,
etc. Un bongo, c'est pas un tambour.
C'est un instrument à percussion.
Ouais, tout à fait.
Donc, j'imagine que les descriptions des paysages doivent être magnifiques.
Oui. Et on est vraiment plongé dans cette, parfois des jours, voilà, que du jour ou que de la nuit, et ça a vraiment une réelle importance. Et on est vraiment, vraiment en Laponie, quoi.
C'est captivant.
C'est captivant. Mmh.
Et du coup, il en a écrit un deuxième qui se passe en Laponie aussi.
Voilà, qui s'appelle Le Détroit du Loup, qui a été publié donc en 2014. Donc là, on est donc à nouveau avec les deux mêmes enquêteurs. Enfin, on peut lire indépendamment, on peut lire Le Détroit du Loup sans avoir lu le dernier Lapon. Et donc cette fois, c'est l'exploitation pétrolière. Et toujours ce problème avec les éleveurs de rennes, l'immigration, etc. Mmh. Donc c'est la confrontation entre la culture ancienne et la nouveauté. Et ah oui, je voulais souligner aussi que dans le premier, il y a un Français qui n'a vraiment pas le beau rôle.
Qu'est-ce qu'il fait?
Bravo.
C'est un escroc, qui aime beaucoup les jeunes filles.
Comme beaucoup de Français, c'est ça.
Et donc là, en fait, il parcourt la Laponie à la recherche des voleurs et du meurtrier.
Oui, tout à fait.
Donc ils partent quoi de, je sais pas comment on appelle, c'est pas des fermes, c'est des.
Ah non, les éleveurs vivent dans des goumpis.
Des goumpis, voilà, cherchais le terme. Mais...
C'est quoi les goumpis?
Les goumpis, ce sont comme des.
Comme des yourtes.
Des yourtes.
Ah oui, d'accord. Oui,
tout à fait.
En peau de renne.
Oui.
D'accord.
Probablement.
Il y a beaucoup de personnages. Du coup, dans le livre, ils rencontrent.
Oui, entre les éleveurs, les policiers, d'autres enquêteurs. Là, dans le Détroit du Loup, avec les plongeurs, ceux qui font les explorations, etc.
Donc là, contrairement au livre que tu nous présentais, Louise, là, on ne connaît pas le meurtrier, les escrocs.
Non,
on va l'apprendre au fur et à mesure.
Voilà. C'est vraiment découvert à la fin, dans les deux.
D'accord.
Mais qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans ce bouquin? C'est l'univers, c'est...
Il y a à la fois l'enquête, description des paysages, on apprend beaucoup de choses sur le pays, et entre le pays, on peut dire, est un personnage des romans, à chaque fois.
C'est un gros livre.
Ah oui, plus de 400 pages.
Plus de 400 pages, d'accord. C'est écrit
400 pages,
C'est écrit gros quand même, non ?
Et signalons que Olivier Truc, il est au lycée technique et au lycée Notre-Dame
bientôt.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine,
d'accord.
Dans le cadre du prix des lycéens.
Je ne le savais pas.
Voilà. Ben, on ira le voir, tiens.
C'est son métier, auteur. Chouette, ouais. C'est son métier ou il est enseignant ou fait autre chose, lui ?
Elle l'a dit.
Il est journaliste. Il écrit pour Le Monde. Voilà. Ouais, il est documentariste aussi. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais donc il y a eu de nombreux prix aussi pour Le Dernier Lapon, Mystère de la critique et du polar, etc.
D'accord. C'est à quelle maison d'édition, le rappel pour nos auditeurs ?
Alors, Métellier.
Métellier.
Métellier et Policier Point pour, en poche pour Le Dernier Lapon.
D'accord. Le Dernier
Est-ce que
Lapon.
C'est ouvert au public, là, la rencontre avec...
honnêtement, avec je ne pense pas.
Non, je crois pas. Hein. C'est,
peut-être
c'est des rencontres
journaliste,
avec les lycéens.
Il fera pas une visite chez toi
C'était trop tard. J'ai pas eu l'information. J'ai pas eu l'information assez vite. Pour prévoir.
Bon, Olivier chose. Truc, si tu nous écoutes, tu passes à la lorgnette.
D'accord. Oui, on t'aime, Olivier.
À 18h.
Moi, je viendrai.
Tu auras au moins Agnès qui sera là. Avec une tarte à quoi ? Une tarte à quoi tu as fait aujourd'hui ?
Là, pour ce midi, j'ai fait une tarte au Cantal avec la poitrine fumée, un petit peu de cumin. Et...
Olivier Truc, si tu nous écoutes, à 18h, à la lorgnette, avec une tarte au Cantal.
Voilà.
Ça te va ?
Excellent. On va aller la manger maintenant pendant la chronique de Nico. Vu qu'il ne nous écoute pas, on va le faire pareil.
Non, mais je ne peux pas tout faire. Je suis qu'un homme, je ne fais qu'une truc à la fois, moi.
C'est vrai. Tu as bien raison. Les brillants, Nico.
Ouais, les brillants. Les brillants, ils sont brillants, en fait. Alors, Les brillants de Marcus Sacquet. Voilà, Marcus Sacquet. Alors, en regardant sa photo, il fait penser à Starkey et Hutch, tu sais.
Oui, hein, c'est vrai.
Il ressemble vachement à Hutch. Incroyable, ces gars. Voilà, collection série noire thriller chez Gallimard. Alors, Marcus Sacquet, en fait, c'est un United States, un Américain. Il vit à Chicago. Il a écrit déjà pas mal de bouquins, notamment un bouquin qui a eu beaucoup de critiques, Les Désaxés, voilà. Et puis son dernier, Des gens bien. Alors, quand tu me l'as donné, Héloïse, tu me disais, tu verras, il y a un peu de SF dedans. Alors, je n'ai pas vraiment vu de la SF, je pense que c'est plutôt de l'anticipation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est... il part d'un constat qui est très simple, c'est qu'il y aurait eu une étude qui aurait été faite. Et depuis les années 80, 1% de la population... naît avec des capacités ou entre guillemets naît surdoué. Vous savez que dans le monde entier il y a des surdoués, il y a des écoles pour surdoués, beaucoup aux États-Unis, tout ça. Et en fait, ce sont des enfants qui dans les années 80 naissaient, donc aujourd'hui ils ont 25 à 30 ans. C'est comment ils deviennent adultes dans notre société avec cette problématique en fait qui est d'être surdoué, donc qui est de vivre un peu en parallèle dans une société où ils comprennent les choses plus vite que tout le monde et qui pose le souci de leur intégration. Comme le handicap peut poser souci de l'intégration ou de la discrimination suivant comment on se situe. Donc il part de ce constat-là et ces enfants grandissent, deviennent adultes, développent des capacités et notamment un... qui défraie la chronique, donc bien sûr c'est un roman, ça n'est pas vrai, et qui en quelques jours arrive à faire plier les bourses du monde parce qu'il arrive à lire dans les chiffres et les données, et en quelques jours il fait plus de 300 milliards de bénéfices, et ils sont obligés de fermer les bourses parce qu'il est en train de tuer le capitalisme, quoi, complètement. Donc en fait il provoque, par ses super capacités et ce côté surdoué, comme l'ont certains adultes, la capacité de calculer extrêmement vite avec des nombres extrêmement importants et avec des méthodes intellectuelles qu'on a du mal à définir, nous. Donc, ils sont sur des bases, nous, on est sur le système base 10, ils peuvent calculer en base 6, etc. Bon, c'est des notions mathématiques, mais qui, quand même, peuvent poser problème dans certains cas. Et c'est le cas, en fait, dans ce roman, en fait, il se crée une agence qu'ils appellent le DAR, en fait, qui est une agence qui est censée un petit peu surveiller ces enfants qui ont des super capacités, qui ont grandi et qui peuvent devenir soit des délinquants, soit des gens qui vont créer des choses un peu farfelues et qui vont faire dysfonctionner le monde.
Ils ne sont pas les bienvenus, en fait, dans cette société-là. Enfin,
alors, au début, ils sont les bienvenus parce qu'on se dit ces surdoués vont révolutionner l'informatique, etc. Et progressivement, en fait, on s'aperçoit que c'est un monde à part. Et donc, on fait appel au DAR pour essayer de suivre tous ces gens qui développent des capacités. Alors, ils sont 1% sur une population de 6 milliards. Ça commence à faire pas mal d'enfants et de gens. Et donc, un de ces enquêteurs, très très brillant, lui aussi fait partie de ce qu'ils appellent les brillants. Voilà, d'où le nom.
Lui aussi est surdoué, voilà. Mais ses collègues ne le savent pas.
Si, tout le monde le sait. Sauf que lui, il a décidé de ne pas passer du côté des brillants, mais de rester dans le monde normal et d'aider en fait, la société à faire le lien avec cette population un peu particulière. Donc, il s'appelle Nick Cooper, c'est un agent fédéral très reconnu, etc. Lui, il a la capacité de déceler tout de suite ce qui ne va pas et de remonter, d'enquêter et de voir et de lire dans le comportement des gens ce qu'ils vont faire. Voilà. Et donc, il enquête. Et puis là, il découvre qu'en fait, il y a un gars qui s'appelle John Smith, qui lui, en fait, est un psychopathe brillant et qui va mettre des bombes un peu partout. Donc, il est sur cette enquête et il recherche ce John Smith. Mais comme il est tellement brillant, donc il y a plusieurs niveaux, hein, niveau 4, niveau 5, niveau 1, etc. Il enquête sur ce personnage et il découvre que ce personnage est un brillant plus d'un niveau 5, c'est-à-dire le plus haut niveau. Et donc, pour arriver à l'arrêter, ils n'y arrivent pas. Ils décident, en fait, de sortir du dard et de basculer et de se rapprocher de ce John Smith et de devenir son collaborateur.
Parce qu'il y a des liens entre les brillants ou pas forcément ?
Non. Alors, il y a pas forcément de lien, mais ce John Smith, en fait, est en train de créer une communauté de brillants qui va s'opposer. Et comme, ils font peur à la société, la société commence à créer des textes de loi pour les parquets, pour même aller jusqu'à de la chirurgie ou des médicaments pour atténuer ce don. Donc, une société en parallèle se crée. Voilà. Donc, on assiste en fait à tout ce que la société, tous les méfaits d'une société qui a peur de ses contemporains, qui a peur de ses enfants, qui a peur de ses gens et qui en fait va les marginaliser, va les persécuter et va les tuer. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, bon d'abord c'est fait par chapitre, donc on rentre progressivement dans cette énigme avec la description de ce personnage qui lui en fait décide, parce qu'il fait ce métier-là, c'est un métier qui est très très compliqué, il n'est jamais chez lui, décide de se séparer de sa femme avec lequel il a eu deux enfants, dont une petite fille qui est une surdouée. Mais se pose le problème de la vie de cette petite fille qui finalement va tomber entre les mains des brillants et entre les mains de ce dard qui va essayer de la modifier, quoi. Et donc, il passe un deal, il dit, OK, je me consacre intégralement, je ne vis plus avec ma famille, je coupe les ponts, j'essaie de devenir le collaborateur de John Smith et du coup de le tuer ou de le maîtriser. Et donc, il devient le criminel recherché numéro un, alors qu'avant il était dans le dard. Mais il le fait en connaissance de cause, et pour arriver à faire ça, il dit, OK, j'accepte le deal dans la mesure où vous protégez ma fille, qu'elle reste ce qu'elle est. Voilà. Et donc, c'est toute cette enquête avec ce parallèle qui est lié à sa vie personnelle. Donc, c'est très, très bien écrit. On se régale à lire ça. Ça se lit très, très vite. Hein. C'est assez facile à lire.
C'est un blockbuster un peu. Ça sent le film de super-héros.
Ouais, ça sent vraiment le film. Alors, il y a plusieurs parties. Là, c'est le premier tome. Il y aura une suite.
Oui.
Il y a une suite, ouais. En plus.
Donc. En plus. Oui, je pense que c'est un bouquin qui va servir de base, en tout cas, à un film comme on pourrait supposer Blade Runner, tu sais. Voilà. Donc, on est un peu dans cet univers. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Blade Runner, en fait, hein, ce film. Voilà.
Et tu dirais que c'est un polar ?
Je dirais que c'est un polar d'anticipation. Alors, c'est un polar parce qu'en fait, il enquête, quoi. Il enquête, on voit toute une enquête sur les brillants, comment il les détecte, quelles sont les particularités, comment il analyse les situations et comment il détecte que ce sont des brillants qui sont à l'origine, en fait, de certains attentats ou de certaines actions. Voilà. En fait, il pose un certain nombre de questions dans ce polar sur la différence, sur la façon d'accepter les différences et même dans une vision optimiste d'une société qui serait plus spécialisée et plus intelligente. Il oblige en fait ses lecteurs à prendre part et à prendre note aussi de nos propres comportements. Et comment on pourrait réagir si on avait des enfants surdoués. Alors, ça m'a fait penser souvent aux parents qu'on voit et fait « Oh, ma fille, elle a des talents, je suis sûr qu'elle arrivera dans la vie. » Vous savez, quand on fabule sur le fait que nos enfants sont les plus intelligents et des surdoués, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que je le classerais plutôt dans le polar d'anticipation. Alors, en même temps, on a envie de ça, que nos enfants soient brillants. Et en même temps, on voit que ça peut être aussi un problème de discrimination. Oui. Et que la discrimination dont on parle sur le droit à l'expression, sur les comportements, sur le droit à la différence ou à la singularité, dans ce bouquin, en fait, sous une énigme et sous une écriture de polar d'anticipation, en fait, on est très, très près de l'actualité, quoi. Je trouve que la fiction là-dedans devient un peu réalité aujourd'hui.
Il parle d'un thriller doublé d'une critique sociale subtile et corrosive.
Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Il remet beaucoup la société américaine en question. Enfin, c'est une façon critique, mais intelligente et subtile, voilà. Donc, je me suis vraiment régalé. Je vous conseille ce très, très bon polar d'anticipation.
D'accord. Et donc, c'est une trilogie. Donc, il y aura deux autres livres qui vont suivre pour ça.
Bah, c'est une bonne nouvelle, ouais, parce qu'on a vraiment envie de faire la suite, de lire la suite, hein.
Ok, allez, super. On rappelle Les Brillants, Marcus Sacquet, aux éditions Gallimard, la série noire de Gallimard. Allez, on fait une petite pause musicale et on revient de suite après avec un morceau que tu as choisi, Héloïse.
Human Drama, et je ne sais plus le titre.
C'est, de toute façon...
Planning Go Rock, non ?
Exactement, très bien, c'est ça.
Love to find by itself.
Planning to Rock du Human Dramas. Non, ce n'est pas toi, Nico. Ça va être Héloïse de présenter un livre. Tu as encore le temps. Héloïse, l'étang sauvage, Yann Manouk.
Oui, l'étang, pas le plan d'eau, mais l'étang comme le temps. Quoi.
Voilà, comme le temps qui passe.
Donc, Yann Manouk.
Non, mais c'est bien de préciser. Moi, je précise jamais. Oui, et c'est vrai qu'à la radio, c'est... Ouais, ça peut poser... On peut se tromper après.
Tout à fait. Donc, Yann Manouk, c'est un auteur assez... Excuse-moi, Nico, j'ai fait tomber toutes tes feuilles. Donc, Yann Manouk est un auteur assez particulier. C'est un éditeur, un publicitaire, c'est un routard, un 68-art. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu plein de choses dans sa vie. Il est un peu par borderline, mais c'est un bon personnage, quoi. Qui a beaucoup voyagé et qui nous transmet dans ce livre-là son amour pour le pays qui est la Mongolie. Donc, après la Laponie,
mais
la
c'est
Mongolie.
C'est un Mongol, lui ?
Non.
Non.
Voilà. Et Yann, c'est pas Yann comme en français, c'est I-A-N.
Voilà, oui, c'est bien de le préciser aussi.
Il est de quelle origine
Il est français, après je sais pas.
Parce que oui, c'est vrai, Manouk, ça fait vraiment penser.
Oui, c'est vrai, oui. Après ça peut être un pseudo aussi, hein, je sais pas. Je n'ai pas plus d'infos.
Bon, on va chercher, on vous dira ça.
Oui, tu peux chercher si tu veux. Donc en fait, c'est son deuxième roman policier. Le premier s'appelait Yeroul Delger. Donc Yeroul Delger, c'est son personnage, c'est son commissaire. Et donc là, moi, je vais vous parler du deuxième, Les Temps Sauvages, Yeroul Delger, le deuxième roman. Donc ça se passe donc en Mongolie. Au début, il y a plusieurs cadavres qui sont découverts dans les steppes. C'est en plein hiver, tout est gelé, le sol est dur comme la pierre. Les rennes, les yaks meurent, les gens ont du mal à survivre. Et donc on retrouve un cadavre, un homme en fait sur un cheval écrasé par un yak, comme si le yak était vraiment tombé du ciel. Un deuxième cadavre est retrouvé, donc là il est coincé dans une crevasse, dans une montagne, dans les montagnes mongoles. Et il est retrouvé en fait sans matériel d'alpinisme, on ne sait pas comment il a pu arriver là, et pareil, en fait il semble tomber du ciel. Donc tout ça est très étrange. Et Yeroul Delger, le personnage, donc le commissaire, se retrouve sur ces enquêtes-là. Il a par ailleurs des problèmes personnels dans sa vie personnelle, tout fout le camp. Enfin, il est lui aussi mis en cause dans une enquête. C'est un commissaire qui est un peu trash, son équipe aussi. D'ailleurs, ils ont tous leurs blessures, ils ont tous un sacré caractère. Et c'est vraiment des personnages que j'ai adoré. Ils sont super, on s'attache beaucoup à eux. Et c'est très chouette de les suivre pendant l'enquête. L'enquête est vraiment complexe jusqu'à la fin. Que dire de plus ? Oui, enfin, au niveau de la Mongolie quand même, les descriptions sont vraiment magnifiques. Ça donne vraiment envie ça fait voyager, que ça soit les steppes, effectivement, ces grandes étendues, ou alors même quand il parle de la capitale qui est avec ses bidonvilles, qui est polluée. Enfin, c'est vraiment une description à vif du pays et je pense très réaliste, même si j'y suis jamais allée, je ne peux pas.
Mais lui, il est allé.
Je
ne
peux pas savoir, mais oui.
Alors j'ai trouvé en fait un petit peu d'informations sur lui. Il s'appelle Patrick Manoukian. Il est né à Meudon. Voilà, en fait, donc c'est un Français. Voilà. 68 art. Et en fait, il est parti, il a découvert le monde, le Brésil, le Japon, il a fait beaucoup de voyages, et notamment donc la Mongolie, l'Alaska, le Brésil, etc. Voilà, Yann Manouk, de son vrai nom, Patrick Manoukian.
Ok, ben voilà, merci.
C'est un polar en tant que tel, ou il y a un peu justement de communico de SF, où, parce que tu dis qu'on ne sait pas s'il y a un yak qui est tombé sur une personne en
l'écrasant. L'explication est vraiment très réaliste. Hein.
Ah, ça reste
réaliste. Je vais pas tout dévoiler,
mais...
Non, c'est très réaliste, c'est un vrai polar, parce qu'il y a une vraie enquête, même il y en a plusieurs qui s'entrecoupent. Mais, après, c'est vrai que je ne considère pas ce livre vraiment comme un polar pur et dur, parce que c'est vrai qu'on a toute une histoire à côté avec les personnages, on a des choses très personnelles. Enfin, donc, c'est plus pour moi qu'une simple enquête policière. Le premier dont je vous ai parlé, Tromper la mort, c'est vraiment ça. Mais là, Les Temps Sauvages, c'est un roman à part entière, en fait. C'est très original, c'est assez déroutant parfois, mais c'est vraiment à lire. Et c'est hyper drôle aussi.
J'ai une question. Oui. Les écrivains de polar restent des écrivains de polar ou ils s'essayent à d'autres styles ? J'ai l'impression que non.
Enfin, il y a sans doute des exceptions, mais c'est vrai que c'est plutôt difficile, en fait, quand on a commencé dans ce genre-là, ou même quand on a commencé dans la science-fiction. C'est ce que Pierre Bordage disait, c'est que dès qu'il fait quelque chose qui n'est pas de la SF, les gens lui tombent dessus, ouais, et les gens comprennent pas. Et, ouais.
En fait, tu crées un public un petit peu, c'est ça. Mmh, ouais. Et les gens sont en attente d'un style. Donc, dès que tu changes, il faut te refaire un public, quoi. Donc peut-être que tu es attaché à ce type d'écrit parce que tu t'es fabriqué un public.
Et il y a quelque chose de bien dans l'écriture que j'ai bien aimé, c'est le titre de chaque chapitre. En fait, c'est la dernière phrase de ce chapitre même. Donc en fait, on commence, on connaît la dernière phrase du chapitre. Et donc ça donne un rythme, en fait, on a très envie de savoir ce que c'est.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est vraiment sympa, ouais.
OK.
Et on retrouve ça d'ailleurs dans le premier, parce que moi je suis en train de lire le premier là.
Oui, Jérôme Delger. Voilà,
oui. Delger. Et là, ça se passe par contre beaucoup à la capitale, et c'est assez glauque, on peut le dire.
À la capitale.
Ou la capitale de Mongolie.
Oui, en Mongolie. Oui, c'est le même. Voilà. Donc il y a quelques passages qui sont dans la campagne, dans le désert, mais beaucoup dans la ville. Et effectivement, ce personnage là du commissaire, il est extrêmement rebelle. Il est
Il est buriné par la vie, quoi. C'est un très bon personnage romanesque. Ouais.
Tout à fait.
Effectivement.
Donc on est parti pour une série de ce personnage, comme ça existe souvent dans les polars.
J'espère qu'il y en aura d'autres, ouais, parce que c'est assez génial de les suivre.
Albin Michel.
J'ai Albin Michel, tout à fait.
Ok, merci beaucoup Héloïse. Donc on rappelle Yann Manouk, Les Temps Sauvages, c'est son deuxième livre de ce policier qui s'intitule
Yérul Delger.
Voilà, super.
Il a écrit un troisième bouquin là, apparemment, qui est déjà parti à l'impression chez Albin Michel.
D'accord, avec Yérul Delger aussi.
Yes.
Super, Nico, merci.
Voilà. Mais qui n'est pas encore fini d'imprimer.
Non.
Ça va venir. Ouais. Ok, super. Un fond de vérité, les impliqués, Agnès, Miloš Zaski.
C'est bien, tu l'as dit, moi je vais juste dire le prénom, alors Zygmunt.
D'accord, voilà, on y arrivera à deux comme ça. Voilà.
Donc là, ce sont deux romans policiers qui ne sont pas d'un auteur français cette fois, c'est un Polonais, hein, avec le nom Miloš Zaski. Et donc là encore, on n'est pas simplement dans une enquête policière dans les deux livres. Et on a vraiment le personnage, l'enquêteur qui est un procureur, qui est très très important. Donc pareil, on a dépeint beaucoup sa vie, ses problèmes. Et également les villes donc, où sont menées les enquêtes, qui sont des personnages à part entière. Alors la première, donc les impliqués, ça se passe à Varsovie. Et la deuxième se passe à Sandomierz. Désolée, je suis pas...
Sandomierz.
Voilà, c'est bien.
Sandomierz.
Voilà, on va faire comme ça.
Ville très connue et populaire.
Oui. Alors,
attends,
en fait...
Avec ses usines à gaz, tout ça, tu connais pas ça?
Non, pas du tout.
Son lac juste à côté où il pêche des poissons
pourris.
C'est
mine de sel aussi.
Et mine de sel de Berchtesgaden à côté.
Non, on est parti ailleurs. Donc, Les Impliqués, c'est un roman qui a été écrit en 2007 et Un fond de vérité en 2011, et qui vient seulement d'être traduit. Donc, il y en a un autre, je vais anticiper la partie de Nicolas. Donc, La colère, qu'il a écrit en 2014, mais qui n'est pas traduit. Et donc, on retrouve le procureur Theodor Zaski comme enquêteur à chaque fois. Donc, il a aussi reçu de nombreux prix, prix du Polar à Cognac, prix du Polar européen, grand prix d'électrice de Elle. Donc, ce sont des romans qui sont bien reconnus. Donc, ce qui est très important, là, à chaque fois, c'est le fond d'histoire polonaise. Pour le premier, Les Impliqués, c'est la période après la période communiste et la façon dont la société se développe. Et pour le second, c'est une enquête qui va démarrer de crimes qui sont commis en faisant référence à des mythes concernant la population juive. Et donc là, on peut ressentir un malaise relativement important parce que ça, il y a un antisémitisme latent pour une partie de la population. Et donc c'est vraiment abordé de front. Hein. Donc c'est.
Oui, tu me disais que c'est vrai que ça t'avait marqué. Hein,
oui,
c'est
tout
vrai,
à fait.
En ce moment,
en plus,
on en parle beaucoup.
Et quand j'ai vu que c'était écrit en 2011, voilà.
Oui.
Et donc l'enquête donc du procureur là, donc il va parvenir à déjouer toute cette mise en scène qui a été évidemment élaborée par le criminel.
C'est le même procureur qu'on retrouve dans tous les livres. Ouais. Ouais, on voit l'importance quand même pour les polars d'avoir un personnage important, fort, charismatique. En quoi il est charismatique, par exemple, ce procureur ?
En quoi il est charismatique ?
J'imagine qu'il a quelque chose de spécial qui pousse à le retrouver de livre en livre.
Disons qu'il a, il a un côté, comment dire, assez... il peut paraître là, fatigué de la vie, fatigué de la société dans laquelle il est, et pourtant il a quand même envie de se battre, il est obstiné, il a envie de découvrir la vérité envers et contre tout.
Voilà. Oui, et c'est un personnage, en fait, il a pas de famille, c'est ça, ou alors il est divorcé.
Dans le premier, donc il est avec sa femme et sa fille.
Dans le premier, il en a, mais plus dans le second.
Voilà, c'est ça.
Mais, il est attachant, ce personnage.
Oui, 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 mais il n'est pas non plus charismatique, dans le sens où tu ne le vois pas beau, généreux, etc. Il est réel. Donc, et le deuxième, il est divorcé, il se retrouve dans cette petite ville. Au départ, il est arrivé là parce qu'il a eu des soucis lors d'enquête à Varsovie. Parce que c'est pareil, il est un peu trash. Et donc, se retrouve là et s'ennuie parce qu'en fait, il n'y a pas de crime. Donc, c'est ça, au départ, qu'il ennuie beaucoup. Mais là, il va avoir de quoi faire.
C'est embêtant pour un polar, hein,
quand il n'y a pas
de crime.
Oui, oui. Non, mais ça arrive très, très vite. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, les enquêtes sont palpitantes dans le premier comme dans le second. On rencontre un tas de personnages. On découvre vraiment la société, la Pologne. Et donc, c'est... voilà.
Donc là, ils ont regroupé dans un roman les deux livres que tu as présentés, Infant de vérité et Les impliqués.
Non,
c'est deux livres différents.
Deux livres différents.
D'accord.
Mais bon, je ne pouvais pas les dissocier parce que c'est le même personnage et le fait que ça se déroule en Pologne, à deux endroits différents. Et voilà. Donc,
On sait l'âge de ce jeune Miłoszewski ?
Il est né en 76.
76, voilà. D'accord. Donc, il n'a pas connu toute la période.
Non. Mais je pense que c'est assez prégnant quand même. Encore.
Certainement, ouais, surtout en Pologne.
Ouais.
OK. Et donc, c'est haletant comme enquête.
Oui, vraiment.
On rentre vraiment.
Oui.
Et au niveau de la description, donc, tu disais les villes sont un personnage à part entière.
Oui, complètement, oui. Et donc, moi, je préfère ça que des policiers où on n'a vraiment qu'une enquête. Et vraiment, on rentre dans la psychologie les évolutions de la société. Enfin, donc, ça apporte autre chose. Mais on a quand même l'enquête qui nous tient et on est attaché au personnage. Et voilà, du coup, c'est palpitant.
Et toi qui lis beaucoup de polars, tu dirais que c'est quand même que c'est original.
Oui, tout à fait, ouais.
Oui, c'est important de se démarquer. On m'a parlé un jour d'un polar sur la pêche aussi qui se démarquait pas mal. Mais ce sera peut-être...
Et oui, à signaler que cet auteur est édité chez nos éditions préférées, Mirobol.
Et qui a écrit quoi ? Les mille et une façons de quitter la Moldavie.
Voilà.
Nous a présenté. Et aussi le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël. Ouais.
D'ailleurs,
et un autre dont vous n'avez pas parlé, qui est très très bien, c'est Je suis la reine.
Ah, faudra
des nouvelles russes.
D'ailleurs, on retrouve la couverture, c'est totalement dans l'esprit, c'est exactement le même style, c'est très graphique, très joli.
C'est très très beau.
Encore une fois, ils ont découvert et édité quelque chose d'original.
Il faut un sacré boulot quand même.
Ah ouais, vraiment.
Et Ludo, tu parlais des critiques tout à l'heure, moi j'ai regardé aussi, et vraiment c'est dithyrambique. Oui, complètement.
Ok, bon, mais super, on vous le conseille. Donc, on vous les conseille, vu qu'il y en a plusieurs, sur cette belle maison d'édition. En parlant de maison d'édition, ça me permet de présenter mon livre, parce que moi aussi, c'est une maison d'édition connue. Hein, Héloïse, est-ce que tu peux nous en dire un mot avant que je présente le livre ?
C'est Gallmeister, qui est une maison d'édition qui s'est spécialisée en fait dans la traduction et l'édition de livres d'ouvrages américains principalement. Et tu en avais déjà lu d'ailleurs de Gallmeister, c'était sur ce jeune homme qui allait tuer
De David
tu
de
David
Van.
David Van, ouais, c'était ça, ouais.
David Van, ouais. Je m'en rappelais plus,
c'était
Gallmeister,
maison d'édition. Ouais, tout à fait.
Ouais, justement, je me suis un peu intéressé à cette maison d'édition qui est vraiment beaucoup aimée des lecteurs. Voilà, une maison d'édition américaine. Américaine, c'est ça ? Ou c'est française
C'est une maison d'édition française et qui traduit des ouvrages américains.
Donc là, ils ont traduit Craig Johnson, Tous les démons sont ici. Alors, tu nous parlais du prix du Quai des Orfèvres. Tous les démons sont ici, concours pour le prix SNCF 2015. Mmh. Donc, vous pouvez encore voter. Enfin, il faudrait avoir lu le livre avant, mais vous pouvez voter. Je ne sais pas ce que représente dans la littérature le prix SNCF. Je sais que...
Tout est possible. C'est possible.
Non, c'est un très bon prix aussi, parce que c'est vrai que... Enfin, le style du polar est très attaché en fait à l'image du train. C'est vraiment le petit polar qu'on achète en fait pour passer son voyage. C'est vrai que c'est qu'il y a un lien.
C'est vrai qu'à Angoulême aussi, il y avait un stand SNCF. Ils étaient présents au festival de la BD. Ça m'a étonné.
Oui, oui, parce qu'ils décernent un prix de la BD Polar, la SNCF à Angoulême. Ouais.
La SNCF aime la littérature, c'est bien
ah,
ça.
Ah oui, oui, oui. Ouais.
Ok, donc on parlait de ces personnages souvent atypiques, charismatiques, qui mènent les séries de polars de leurs écrivains. Mais ici, ce livre donc, qui est écrit par Craig Johnson, c'est le 7e volet des aventures de Walt Longmire, un shérif du comté d'Absaroka dans le Wyoming. Et donc Nico, qui dit shérif américain, dit...
Cowboy.
Dit cowboy, dit têtu, solitaire.
Bon, les garçons de vache.
Voilà. Et plutôt increvable. Hein, c'est ça, les shérifs américains, on leur tire dessus, mais ils ne meurent pas. Mais ce Longmire a en plus, voilà, lui, un vrai charisme. Il faut savoir que dans ce livre, en pleine chasse à l'homme, il se plonge dans un livre de poche que lui a refilé son adjoint, qui est L'Enfer de Dante. La Divine Comédie, pour y puiser réflexion et espoir. Donc, c'est pas tous les jours qu'on trouve un shérif comme ça. Alors, le synopsis de l'histoire, rapidement. Alors, il y a un Indien, un crow d'adoption, qui est considéré comme le plus dangereux sociopathe des États-Unis. Il s'appelle Reino Shad. Il représente le cauchemar, bien entendu, de tout policier. Alors, il est interpellé. Il avoue qu'il a enterré le cadavre d'un enfant au beau milieu des Bighorn Mountains dans le Wyoming. Donc, vous imaginez ces hautes montagnes enneigées avec le blizzard, la neige. Et donc, c'est à Walt Longmire que revient la tâche d'escorter Shade en plein blizzard. Alors, Shade, il arrive à s'évader avec d'autres détenus. Il prend des otages. Il s'échappe. Et il est suivi par Longmire qui va devoir seul braver l'enfer glacial des montagnes et tromper la mort avec pour seul soutien donc la Divine Comédie de Dante. Donc c'est un vrai polar quoi, c'est une chasse à l'homme dans ces montagnes enneigées, la nuit dans le froid avec des raquettes et tout ce qui va avec. Alors donc moi j'ai vu ce livre avec de deux façons, il y a 50 premières pages où donc c'est haletant, c'est tendu, c'est voilà, on sait pas, il s'évade pas, il y a de la tension avec les détenus etc. Et donc les 250 suivantes, c'est une longue marche où le lecteur se perd avec donc ce shérif. Il marche littéralement à côté du shérif hein, il est vraiment avec lui. Il se perd dans les vallées, les lacs gelés, les pics versants. Et au final, c'est un combat plus contre la tempête, contre la montagne, que contre cet ennemi qu'il essaye de rattraper, quoi. C'est vraiment un récit d'aventure. Voilà, c'est ce qu'on appelle le récit d'aventure, la chasse à l'homme, dans un décor époustouflant. Voilà, c'est vraiment un polar. Moi, je suis pas très polar et celui-là, je le conseille vraiment. Voilà. Alors, je me suis dit, voilà, comme pour le livre de Nico, tiens, ça pourrait vraiment faire un film. C'est avec ces paysages de toute beauté. Et en fait, y a une série qui existe aux États-Unis, Longmire, et qui est diffusée. J'ai appris ça sur D8. Sur la chaîne de la TNT. Ah oui. Ils en sont à la troisième saison.
Longmire.
Et ouais. Ben c'est lui, Longmire.
Ouais, c'est tiré de son...
De son roman. Donc il y a aussi une allégorie avec Dante, avec les 9 cercles de l'enfer. L'enfant qui a été assassiné, où on retrouve le cadavre au début du livre, ben son grand-père, qui est un Indien aussi, s'appelle Virgile, et on le voit de temps en temps et des Longmire, comme dans La Divine Comédie de Dante. Il y a aussi cet aspect allégorie avec Dante. Apparemment, sur l'opus précédent, c'était un opus assez drôle, assez court, léger. Là, c'est plus centré sur le personnage, les paysages, la lutte contre soi-même, le questionnement. Il passe du... au lieu du pourquoi Shade est devenu un psychopathe, au comment il est devenu. C'est tout un questionnement avec ce policier. Bon, il y a des teintes d'humour. C'est vraiment très, très bien écrit. Voilà, mais c'est un écrivain, Craig Johnson, qui lui aussi a beaucoup de lecteurs qui le suivent à chaque volet, qui attendent chaque volet. Et apparemment, il est réglé comme un métronome parce que, boum, ça me sort au même moment chaque année. Hop, ben le Longmire et les lecteurs attendent.
Mais voilà. Du coup, ça t'a donné envie de lire les premiers ou de retrouver ce personnage? Parce que toi, t'en avais pas lu avant, tu connaissais pas Longmire.
Non, je connaissais pas du tout Longmire. Mais disons que je suis pas trop polar, moi, donc je vais pas me replonger, mais c'est plaisant à lire. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Et justement, les gens qui aiment les polars, à mon avis, c'est toute une série à regarder, 7 volets. Après, le problème, c'est qu'on sait jamais d'un livre à l'autre si c'est de la même qualité, l'évolution des personnages. Voilà, apparemment, dans certains livres, c'était vraiment le shérif typique avec son adjoint un peu bêta, l'Indien caricaturé. Voilà, c'est peut-être moins recherché que ce livre-là, qui est le septième, et où il a travaillé plus sur la psychologie du personnage. Voilà. Nico, tu as une question ?
Un petit extrait, vous voulez écouter un petit extrait, non ?
Oui, si tu veux, vas-y.
Pop était un monstre, exactement le genre d'obstacle sur lequel on ne veut pas tomber dans une ruelle sombre ou même complètement éclairée. En gros, de la même taille que moi. Il était déjà en forme lorsqu'il était arrivé dans la prison à sécurité maximale de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Et 4 heures de musculation par jour, au cours de la dernière année, n'avaient pas vraiment contribué à le rendre rachitique. « Eh putain, je crève de soif !» Espèce « bip !» C'est un gros mot. Ni à améliorer le niveau de son vocabulaire. Hector Otero, le troisième membre de notre terrible trio, sourit en entendant la dernière sortie de Pop. Et je me demandais quel mauvais choix avait amené cet escroc à tuer 2 personnes dans le sud de Houston. Le latino, au sourire permanent, avait été abasourdi lorsque Santiago, lui avait parlé dans un espagnol parfait. Je n'avais compris qu'une faible partie de la conversation. Mais le basque avait ensuite levé les yeux au ciel, ce qui avait jeté de sérieux doutes sur l'intelligence du voyou.
Voilà un roman écrit à la première personne, bien sûr, parce que c'est ce Longuemire qu'on suit tout au long de l'histoire. Tous les démons sont ici, Craig Johnson de Gallmeister. C'est ça, on dit Gallmeister, les éditions ?
Gallmeister, oui.
Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour ce livre.
Que vous pouvez retrouver sur le Facebook.
Voilà, 48FM, Mande Lozère. Il nous reste 2 minutes, donc je ne sais pas si on va faire une pause musicale.
Je pense pas.
On va plutôt annoncer peut-être les prochaines émissions. Rappeler déjà tous les livres qu'on a évoqués. Donc on a commencé par... tu as commencé, Louise, par Tromper la mort de Maryse Rivière. Finstero Andrea Maria Schenkel,
voilà, que tu as beaucoup aimé,
que j'ai adoré. Je préfère Andrea Maria Rilke, mais c'est un autre style d'écriture. Ouais. Agnès, Olivier Truc pour
Le dernier lapon et Le détroit du loup.
Alors Nico, Les brillants.
Marcus Sacquet, Les brillants.
Série noire de Gallimard. Yann Manouk, Héloïse.
Les temps sauvages.
Donc, c'était Patrick Manouk. Hein.
Oui.
Voilà.
De son vrai nom.
De son vrai nom, ouais. Né à Meudon.
Voilà. Agnès, Un fond de vérité, Les impliqués, deux romans de...
Et Un fond de vérité, tu l'as dit, non ?
Il y a un fond de... Si, je l'ai dit, oui.
Tu l'as dit. Un fond de vérité, Les impliqués. Je
voulais échapper
à l'auteur.
Milosevski.
Voilà. Et on a fini donc par Tous les démons sont ici, de Craig Johnson. Héloïse, dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on va retrouver ?
Dans 2 semaines, on va parler de romans pour ados et pré-ados.
Voilà, et dans 1 mois, on va tomber en plein la petite roulotte. Donc, on vous fera...
Un spécial littérature jeunesse.
Voilà, alors on va passer aux ados et on va descendre
jusqu'au
CM2. Ouais.
Voilà, jusqu'au CM2, donc ça va parler de jeunesse.
Pour aider nos enseignants à faire des beaux choix, de beaux livres et pour les lire avec leurs enfants. Voilà. En classe et à d'autres moments.
Et si le SNES FSU peut nous écouter, ça serait pas mal. Allez, merci à tous d'être là.
Ils ont un droit de réponse, hein. S'ils nous répondent, on dira ce qu'ils nous ont dit.
Nicolas Beugnès, n'hésite pas, si tu nous écoutes.
Salut.
Allez, salut.
Merci à tous. Bonne journée.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.